nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Pièce d'argent. Sourire, sourire. Y aura-t-il toujours à son bras cette main? Après la cérémonie, il y eut un repas, 300 couverts. C'était long, long, interminable, cérémonieux, mais ne put rien avaler. Fin de journée, tout allait se changer pour le bal. Eudy se prépara dans sa chambre, la déshabilla, Elle s'allongea un moment. Elle était en sueur, épuisée, la tête vide, tout tournait autour d'elle. Au pied de son lit se trouvait déjà Moll. Moll. Ses habits froissés et mous de la cérémonie. Elle avait aussi ses mâles. Elle n'avait demandé qu'une grâce au fiancé, c'était de quitter la maison familiale que le lendemain matin. Se lever. S'habiller pour le bal. Ses préparatifs pour le bal. Encore une cérémonie.
Cher ami, monsieur le lieutenant Nuno Lorena.
Pas blond, lieutenant. Je vous imaginais blond.
Je vous présente mes devoirs, madame. Vous connaissez ma mère et ma cousine, Estefania.
Mais nous nous connaissons depuis toujours, lieutenant.
Sa cousine et bientôt sa femme.
Mais c'est merveilleux. Félicitations, Estefania. Bonsoir, Titao. Ça fait une éternité. Comment va Alberto? Toujours heureux à Paris?
Il va très bien, merci.
J'avoue que c'est à Mariana que nous devons l'excellente idée de cet hommage. Elle mourait d'impatience de vous connaître.
Qui ne serait pas impatient de rencontrer l'homme qui a capturé Gungunana tout seul? Non, l'homme qui, tout seul, a capturé Gungunana. Gungunana, n'est-ce pas?
Oui, oui, mais...
J'ai du mal à vous imaginer seul au milieu de la brousse avec des milliers de noirs autour, des lions, des serpents. Bon, les serpents, ça donne la chair de poule.
Je n'étais pas tout seul, madame la comtesse.
Ah bon, monsieur le lieutenant?
Non, nous étions 47, et surtout il y avait Mouzine.
Ah oui, bien sûr, Mouzine. Quel dommage, tout de même, je vous verrais bien seul au milieu des sauvages dans un tableau guerrier.
N'écoutez pas. Mariana adore provoquer. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps d'ouvrir le bal. Mais Stéphania, si tu n'as pas honte de danser avec un ministre, et vieux de surcroît.
Oh, cousin.
Elle ouvrit le bal avec son père. Elle portait une robe du soir blanche, un collier de perles, et c'était fin chignon.
Elle a grandi, la petite Estefania. Elle a dû vous manquer beaucoup en Afrique.
Oui, bien sûr, madame la comtesse.
Et surtout, vous ne voyez que des négresses là-bas, je suppose.
Oui, en général, madame la comtesse.
Elle se promène vraiment toute nue, comme sur les gravures?
Pas tout à fait, mais presque.
Je vois que ce sujet vous gêne, lieutenant. Je n'en parlerai plus.
Vous ne me gênez pas, au contraire.
Mais vous rougissez, lieutenant. Vous êtes jeune.
Vous ne me semblez pas très âgé non plus, madame.
À Lopez, comme monsieur le président me l'a recommandé, mais il n'a rien.
Puis elle dansa avec son mari, qui était un officier. Nous bien dansant, vous souvenez la première fois que nous sommes rencontrés, c'était à un bal. Lui dit-elle,
il se croit en France, ces voyous.
Tout tournait autour d'elle.
Mais il part de bon maintenant.
Dans la mesure où il se contente d'en parler.
Ce qui m'avait plu en vous, c'était votre jeunesse. Et votre fraîcheur. Il ne disait rien.
Sauf qu'à présent, il y a
un musique étourdissait. Il n'avait qu'un seul désir, celui de s'isoler, partir, partir.
Cette racaille ou pas, à coup de pied là où je pense. On sauve votre respect, monsieur le président.
Je te remercie bien.
Je croyais que t'allais plus venir.
Arrête, Manuel, tu es fou.
Oui, je suis fou. De ta bouche. Petite bête.
Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche?
Mais elle dut malheureusement rester, accepter des invitations à danser. Albin eut la délicatesse de ne pas l'inviter.
Dansez très bien, lieutenant. J'aurais pu danser avec vous toute la nuit.
Elle était suffisamment troublée.
Lieutenant, vous ne m'écoutez pas, vous êtes ailleurs.
Hippolyte invita Agathe à danser. Elle était très belle, avec sa robe bleu pâle.
Au contraire, madame la comtesse.
Mon cousin, que pensez-vous de ce mariage? N'est-il pas réussi?
Non.
Il est très beau. Il lui dit.
J'ai le sentiment.
Il est long et ennuyeux.
Comme deux visages.
Alors vous trouvez le mien long et ennuyeux, car je me marie.
Hippolyte,
il le souffle
la fête
coupé.
À moi, mais au fond, il n'aime ni l'un ni l'autre.
Oh,
encore ce
vous mariez, cousine? Oui.
Mais vous vous faites des idées.
Cet hiver. C'est ce que nous avons décidé, Charles-Alexandre et moi. Vous êtes la première personne à l'apprendre.
Jamais je n'aurais cru que ce...
Vous saviez comme je suis heureuse.
Pourrait autant intéresser Marianne.
Et puis,
c'est à vous m'intéresser.
Pensons toujours à... Mais...
La muse, c'est tout. J'ai combien
qu'est-ce
la
que vous avez... Mais qu'avez-vous, mon ami?
Dites-moi, soldat.
Hippolyte tremblait de tout son corps. Il avait les larmes aux yeux. En courant.
Mais tu es fou.
Oui, je suis fou.
Agathe se retrouva seule au milieu des danseurs. Elle pensait que le trouble d'Hippolyte provenait qu'il l'aimait encore. Elle aussi l'aimait encore un peu, et même plus qu'un peu. Elle était attristée et se dit contre elle. Elle n'aurait pas dû lui faire de la peine, qu'elle n'aurait pas dû lui dire des choses comme ça.
Vous êtes d'ailleurs. Ma fête ne vous a pas plu ?
Si, si. Au contraire, madame la comtesse.
Et Charles Alexandre ?
Je l'ai trouvé magnifique. Seulement, ici,
il y aura toujours ce voile.
J'ai le sentiment que les gens ont comme...
ne savaient que faire. Elle la laisse s'asseoir. Charles Alexandre vient vers elle. Qu'as-tu ? Tu as l'air si triste. Rien, je dansais avec Hippolyte et puis il s'est enfui.
Vous faites des idées.
Il n'était pas bien. Où est-il maintenant ?
En tout cas, moi, je crois que je vous aime bien.
Je ne sais pas. Je vais le chercher.
Jamais je n'aurais cru que ce héros d'opérette
pourrait... Et avant de la quitter, il l'embrassa sur le front.
C'est à vous m'intéresser.
Charles Alexandre, elle a frappé à la chambre.
J'ai combien elle aime la nouveauté. La pauvre Stéphania, elle, par contre, n'a pas fait le même sens. Dites-moi, celle-là, ne croyez pas qu'il faut faire quelqu'un qui donne la peine de l'inviter. Faut-il entendre, mon général, que je devrais me porter volontaire ?
Exactement, mon gars. Si la mission ne vous fait pas peur.
Hippolyte, ouvre. C'est moi.
Je n'en attendais pas moins.
C'est moi. Ouvre. Mais rien. La porte restait fermée à clé. Aucun bruit. Dans la chambre. Dans la pénombre. Sur le lit, habillé, allongé sur le dos, Hippolyte pleurait, les yeux grands ouverts. Charles Alexandre crut qu'Hippolyte était sorti. Il allait le chercher. Chercher dans le parc.
Vous dansez très bien, lieutenant. Oh, j'aurais pu danser avec vous toute la nuit.
Mais rien.
Vous êtes d'ailleurs.
Hippolyte avait disparu.
En fait, ne vous a pas plu.
Il retourna dans le bal.
Madame la comtesse.
Dans la salle de bal.
C'est magnifique. Seulement, ici, j'ai le sentiment que les gens ont comme deux visages.
Comment ça ?
Et alla vers Agathe. J'ai pas trouvé.
Ils me font la fête à moi, mais au fond,
ils n'aiment... Il a dû chercher à s'isoler, dit Agathe.
Encore ce Mousinot, vous ne pensez qu'à ça ? Mais vous vous faites des idées. Oh. En tout cas, moi, je crois que je vous aime bien.
Jamais je n'aurais cru que ce héros d'opérette pourrait autant intéresser Marianne.
C'est à vous m'intéresser.
Il l'amuse, c'est tout. Tu sais combien elle aime la nouveauté. La pauvre Stéphania, elle, par contre, n'a pas fait.
Thank you.
Auguste et Odile sont seuls dans la chambre de jeune fille d'Odile. Leur nuit de noces, ils la passent dans cette chambre. Ils étaient debout, là, l'un en face de l'autre, très intimidés.
Eh bien, il nous faut nous coucher, dit-il.
Oui,
dit bien, habillons-nous. Ne soyez pas intimidés. Nous sommes mariés, mari et femme maintenant. Nous ne formons qu'un. Je suis à toi, tu es à moi. Allez, venez, donnez-moi la main.
Elle s'approcha, lui prit la main, lui donna un baiser sur le front.
Voilà. Cela va mieux maintenant? Allez vous déshabiller et passez votre chemise de nuit dans le cabinet de toilette.
Elle y alla.
Lui, pendant ce temps, se déshabilla.
Et se mit en chemise de nuit. Puis, il alla vers le lit. Le palpa, le toucha, pour voir s'il ne grinçait pas. Ça allait. Il se demandait s'il devait prendre une serviette ou non. Bien sûr, cela risquerait de choquer, mais tout de même. Alors, il en prit une à tout hasard, qui mit sous l'oreiller. Puis resta debout un long moment dans la chambre à attendre Odile. Enfin, elle arriva.
Il la trouvait merveilleuse, en chemise de nuit et cheveux tombants. Il lui prit la main, la fit asseoir sur le rebord du lit, l'embrassa sur la bouche. Elle était toute tremblante de peur, peur qu'il ne sache. Lui crut que c'était la peur d'une jeune fille. Il ouvrit les couvertures, la fit s'allonger sur le lit, se mit contre elle. La lumière était allumée. Il se mit à la caresser doucement, lui caresser les seins, donner des baisers dans le cou. Se laissa faire impassible. Il lui retira sa chemise de nuit
Elle avait peur. Enfin, il verra. Mon Dieu, que dira-t-il ? Ce fut terrible pour elle. Elle ne ressentit rien, seulement de la panique. Puis, elle se rendit compte de rien. Tellement, son plaisir était fort. Pour son mariage, il s'était gardé un mois qu'il n'avait pas, enfin. C'était fini. Dans sa fougue, il ne s'était même pas rendu compte qu'elle était restée impassible. Il ne l'avait même pas regardée. S'il eût fait ça avec n'importe qui, ça aurait été pareil. Il s'en sortit. Il était en sueur, satisfait. S'allongea auprès d'elle. Au bout d'un moment, se souvint qu'elle était vierge. Il fallait se nettoyer. Mon ami, il vous faut vous nettoyer. Il se pencha vers elle et vit qu'elle n'avait pas saigné. Vous n'étiez pas vierge.
Non, je ne l'étais pas.
Il devint rouge de fureur, se mit à hurler. Comment? Vous ne l'étiez pas. Pourquoi ne pas me l'avoir dit et faire semblant de l'être? Il la gifla. Garce! Elle pleurait,
mais fut soulagée.
Combien avez-vous eu d'amants?
Un seul.
Qui est-ce? Il la gifla. Allez, réponds.
Elle était en larmes. Les poignets qu'il maintenait lui faisaient mal. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Puisque c'est vous que j'ai épousé et aimé.
Répondez. Qui est-ce? Allez. Puisque c'est moi que tu aimes, tu peux bien me le dire. Allez, dis-moi qui est-ce et nous n'en parlerons plus.
C'est Alban.
Alban ! Il la gifla. Garce ! Se leva d'un bond.
Que vas-tu faire ?
Je vais voir ce monsieur. Elle se leva en larmes. Se mit sur ses pieds.
Oh non, je t'en supplie, n'y va pas. Je ferai tout ce que tu voudras, mais je t'en supplie.
Garce, tu vois bien que tu l'aimes.
Ah,
un coup de pied au ventre. Elle se recula. Et il sortit de la pièce. Elle restait à genoux. Les mains sur le ventre, à pleurer, les cheveux défaits. On alla dans la chambre d'Alban et reprit un peu ses esprits. Alban fut réveillé par des grands coups que l'on donnait à sa porte. Qui est-ce? C'est moi, Auguste. Ouvre. Sa voix était ferme, sans colère. Alban ouvrit. Auguste se rua sur lui. Espèce de salaud, fumier. Sa voix était toujours ferme. Alban avait compris, mais ne disait rien. Gifla plusieurs fois Alban. Mais. Il le fit tomber sur le plancher. Le plaqua et lui dit, tu as été l'allemand, ma femme, fumier, tais-toi, je sais tout. Il lui met la main sur la bouche, salaud. Alban a voulu se défaire de ce corps qui se trouvait sur lui, mais il était trop fort pour lui. Écoute-moi bien, canaille, je ne veux plus te revoir. Et si par hasard je te vois avec ma femme, je t'étrangle. Toute cette fureur avait épuisé Auguste. Il lâcha Alban et s'allongea sur le sol à ses côtés. Il était en sueur, essoufflé. Il faut me promettre une chose, c'est de ne rien dire de tout ceci. Je ne veux pas de scandale. Tu comprends? Dis. Il donna un coup de poing dans le ventre d'Alban. Toi et moi, c'est fini. Ne reverrons plus. Quant à ma femme, je m'en charge. Ou plutôt ma gouvernante et moi, nous en chargerons. Il se lève. Est parti. Là dans sa chambre. Dans sa chambre, il se retrouva Odile, toujours pleurant, assis à terre. Allons, relève-toi. Je ne lui ai pas fait de mal à ton Gandhi. Voudra coucher, cacher cette affaire et n'en parler à personne. Tu m'entends? Allons, viens te coucher. Demain matin, nous partons tôt. Demain matin. Allez. Tout le matin, sans réveiller la famille, ils partirent sous la pluie. Lui qui annonçait l'automne. Ce même matin, Charles-Alexandre alla frapper à la porte de la chambre d'Hippolyte. chambre était ouverte. Il entra. Pas d'Hippolyte. Le lit était fait. Tout était en ordre. Charles-Alexandre passa qu'il devait se trouver au lac. Décida d'aller à sa rencontre.
Il pleuvait, une pluie fine et très brumeuse, il faisait très brumeux. La terre faisait la glaise, collait aux semelles. Arrivé au lac, Hippolyte n'y était pas. Durant toute la journée, personne n'avait vu Hippolyte. Personne ne sortait cette pluie qui n'en finissait pas. Au petit déjeuner, Hippolyte était toujours absent. Sa mère s'en inquiétait. Charles-Alexandre aussi. Savez-vous où il est ?
Non, mère, dit Alban.
Il s'est
mis dans sa chambre, il n'est ni dans sa chambre, ni nulle part.
Et dans le jardin ? Peut-être lui est-il arrivé quelque chose ? Vous ne croyez pas ?
Elle avait les larmes aux yeux. Son mari lui met la main sur son bras.
Ne t'inquiète pas. Il est si bizarre.
Il a dû se réfugier quelque part.
Pour bouder. Ou se reposer.
Nous fouillerons le jardin.
Mère, dit Agathe.
Elle était émue et avait peur d'un malheur.
Les Dancourt essayèrent de réconforter les Condorcet. Après le repas, Monsieur de Condorcet, Alban, Monsieur d'Alencourt, Charles Alexandre et deux domestiques partirent à la recherche d'Hippolyte. Il pleuvait toujours, et cette pluie fine et brumeuse se faufilait sous les vêtements. Ils avaient pris des parapluies et fouillaient dans tous les sens le parc, le petit bois, les écuries, rien. Décidèrent, c'est d'aller vers le lac. La surface du lac était troublé par la pluie. Autour, tout était lumineux. Cette brume rendait le lac immense, grand. Sa berge était lumineuse et glissante. Ils marchèrent l'un derrière les autres avec précaution. C'est sur ce rocher que d'habitude il se trouve, dit Charles Alexandre. Le rocher était vide, rien. Ils s'approchèrent du rocher et restèrent un moment sans bouger. La pluie était moins forte. Et tout d'un coup, la pluie s'arrêta, le soleil apparut. La surface du lac devint lisse et lumineux. Et sur le lac venaient, de je ne sais où, quatre cygnes blancs, raides, magnifiques. Ils avançaient. Vers eux. Lorsqu'ils furent suffisamment près, ils virent au milieu des cygnes que se trouvaient flottant sur le dos le corps d'Hippolyte. Il était blanc, vêtu de blanc, ses yeux étaient fermés. Et son visage semblait refléter une grande douceur. Thank you. Alban se trouvait dans la chambre de sa mère. Elle était dans la pénombre. Sa mère était sur son lit, couchée, les cheveux défaits et très fatiguée. « Vous ne voulez pas vous lever pas aujourd'hui ?»«
Non, je suis lasse. »
« Que disent les médecins ?»«
Oh, les médecins, pour eux, je ne suis pas malade. J'ai une grande mélancolie, un manque de caractère. »
« Alors, mère, il faut vous lever ?»
Alban s'approcha près du lit. Il se mit à genoux près d'elle, lui prit les mains.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.